Un journal présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. À Hong Kong, des veillées cette nuit pour rendre hommage au premier mort du mouvement de contestation depuis son lancement il y a 5 mois. Alex Chow, étudiant en informatique, avait 22 ans. Il est mort ce matin à l'hôpital des suites de ses blessures que les militants pro-démocratie attribuent à la répression policière. Reportage à suivre de Florence Dechangy. Dans un contexte économique compliqué pour l'Europe en ce moment, les dissensions entre Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont faites un peu plus visibles ces dernières heures. Dans une interview publiée hier, le président français s'est montré critique envers l'Europe et l'OTAN. Il a agacé la chancelière allemande. Explication avec Louise Baudet dans un instant. Et avec Marie Viennot, nous ferons un point dans ce journal sur le ralentissement économique observé en zone euro. C'est une première. Un juge des référés a rejeté aujourd'hui la demande de suspension de 2 arrêtés anti-pesticides pris par les mairies de Gennevilliers et de Sceaux dans les Hauts-de-Seine. Peut-être le signe d'une évolution de la justice administrative sur la question. Explication de Florence Sturm. Et puis l'enquête de cette édition. Avec Marjolaine Corr, nous reviendrons sur la pollution au plomb à Paris qui a suivi l'incendie il y a un peu plus de 6 mois maintenant de la cathédrale Notre-Dame. Une atmosphère à Hong Kong comme une bombe à retardement. Les mots sont de Lau Kin Hei, militant pro-démocratie engagé en politique. Il décrit le climat très tendu qui règne actuellement dans la région semi-autonome et exprime bien une absence totale de confiance des manifestants vis-à-vis de la police après la mort d'un jeune manifestant ce matin à l'hôpital. Alex Chow, tombé le week-end dernier d'un parking à étage lors d'affrontements entre la police et les manifestants, est mort ce matin des suites de ses blessures. Les circonstances de sa chute ne sont pas claires, mais pour les militants pro-démocratie, elle est directement liée à la répression. Dans la soirée, des veillées ont été organisées en plusieurs endroits de Hong Kong. Reportage de Florence Dechangy.
Alors que certaines veillées ont eu lieu dans le plus grand calme et le recueillement, comme à Causeway Bay vendredi soir, ailleurs s'évitent la colère et la frustration qui l'ont emporté. Sur le campus de l'université de Hong Kong, Nicolas, étudiant de 21 ans, en droit et en sciences politiques, parle du drame avec ses amis.
C'est vraiment navrant que la jeunesse de Hong Kong doive autant sacrifier. On a vu de nombreux suicides, des blessés, des gens se faire poignarder, se faire arracher l'oreille. Une journaliste a perdu un œil. Avec une telle progression du mouvement, c'est vraiment au gouvernement de résoudre cette crise.
Pour l'avocate et ancienne députée Margaret Ng, il est essentiel que les zones d'ombre qui entourent cette mort soient levées.
Cela fait longtemps que l'on redoute le jour où la vie de quelqu'un serait sacrifiée dans ce mouvement. Il faut un effort déterminé pour connaître exactement ce qui s'est passé et qui est responsable.
De nouvelles informations sont sorties aujourd'hui, obligeant la police à admettre qu'elle était dans le parking où le jeune homme a été retrouvé inconscient beaucoup plus tôt que ce qu'elle avait initialement annoncé. Elle a reconnu son erreur, mais nombre de manifestants crie vengeance.
Florence Dechangy. Encore une journée de violence à Bagdad, malgré les appels au calme de l'ayatollah Sistani. De nombreux affrontements entre manifestants et forces de sécurité ont éclaté. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène et jeté des grenades assourdissantes. Il y a eu une nouvelle fois plusieurs blessés côté manifestants. Dernier jour de campagne en Espagne avant les élections législatives de dimanche. Ce soir, un meeting du parti Vox pourrait marquer les esprits tant la formation d'extrême droite semble avoir le vent en poupe. Hier, elle a obtenu le soutien du Parti Populaire et de Ciudadanos pour faire adopter au Parlement de la région de Madrid une motion symbolique réclamant l'interdiction pure et simple de tous les partis indépendantistes. Pourtant, Vox n'hésite pas à s'arranger avec la réalité et provoque depuis quelques temps maintenant l'ire d'universitaires qui sont mobilisés et ont publié aujourd'hui un manifeste de protestation à Barcelone. Isabelle Labéry.
C'est le débat télévisé lundi soir qui les a le plus choqués.
Hola, buenas noches, bienvenidos al debate electoral.
Le candidat d'extrême droite multipliant approximations et raccourcis, notamment sur l'immigration. D'après Santiago Abascal, 70% des viols collectifs en Espagne sont commis par des étrangers.
Y el 70% de quienes están imputados son extranjeros.
Or, ces statistiques n'existent pas. Il s'agit d'une vision tronquée d'une étude conduite par des chercheurs en sciences sociales. Eva Andouiza Teresa, enseignante à l'Université autonome de Barcelone, a été l'une des premières à signer le manifeste, indignée par l'absence de réaction de la classe politique.
Les partis ne sont pas à l'aise avec la question de l'immigration, surtout à droite et au centre-droit. Ils ne savent pas trop comment se positionner. On l'a vu, dans le débat, personne, quasiment, n'a répondu ou contredit le discours de l'extrême droite. C'est pour ça qu'on attire l'attention des acteurs politiques et des médias. Ils ne doivent pas laisser faire ces mensonges et ces manipulations.
Dans un éditorial publié cette semaine, le quotidien El País demandait lui aussi une réaction ferme face aux propos de Vox. Ces journalistes n'ont plus le droit désormais d'assister aux meetings du parti.
Isabelle Labéry. De nouveaux sujets de discorde entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, qui pourtant n'en ont jamais vraiment manqué. Dans une longue interview accordée hier à l'hebdomadaire britannique The Economist, le président français, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas évité les sujets qui fâchent sur l'Europe et sur l'OTAN notamment. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Benoît.
Le point le plus problématique, celui peut-être qui pique le plus aujourd'hui, c'est celui de l'élargissement de l'Europe et de l'Union européenne aux Balkans.
Oui, pas sûr que l'ambiance soit à la fête dimanche soir au château Bellevue de Berlin, résidence du président allemand, où Angela Merkel et Emmanuel Macron se retrouvent pour réfléchir au sens du projet européen. Une Europe à combien ? Question hautement sensible. L'adhésion des pays des Balkans n'est pas d'actualité, martèle Emmanuel Macron, qui veut d'abord que l'Europe se réforme, d'où le veto français le mois dernier à l'ouverture de négociations avec la Macédoine et l'Albanie. Sauf que cet élargissement, il est d'une importance stratégique extrême, rétorque la chancelière allemande, qui recevait ce midi Ursula von der Leyen, la patronne de la future commission de Bruxelles, souligne, elle, les efforts énormes fournis par ces deux pays à qui l'Europe doit offrir des projets communs, sinon d'autres le feront.
Oui, en regardant vers l'Est, l'ambassadeur de France à Sarajevo, Guillaume Rousson, a été convoqué aujourd'hui par la présidence de Bosnie-Herzégovine au lendemain de la publication de cette interview du président français qui compare le pays à une bombe à retardement, notamment en raison de l'intégrisme musulman et du retour de djihadistes. Enfin, Louise, sur un plan plus économique, la règle des 3% de déficit public a été remise en question par le président français.
Oui, encore un sujet qui va mettre une bonne ambiance dimanche à Berlin. Mine sombre et manches retroussées, Emmanuel Macron prévient en une de l'hebdomadaire britannique « L'Europe est au bord du précipice, minée par ses divisions et agrippée au totem des 3% de déficit, débat d'un autre siècle », dit-il, alors qu'il faudrait investir massivement comme le font la Chine ou les États-Unis. Cette exhortation, elle s'adresse à l'Allemagne, première économie et locomotive du vieux continent, quand de l'autre côté du Rhin, on tord le nez devant la fameuse incapacité française à tenir ses déficits et à se réformer. Contentieux ancien, singulièrement ravivé par un Emmanuel Macron plus disruptif que jamais. Ainsi, l'OTAN qu'il juge en état de mort cérébrale, alors que l'Alliance Atlantique reste pour Angela Merkel la pierre angulaire de notre sécurité.
Merci beaucoup, Louise Baudet. Alors, en matière économique, il ne sera bien sûr pas possible de mettre tout le monde d'accord, sauf peut-être au moment du constat. La zone euro est en baisse de régime, cela se confirme, 1,1% de croissance du PIB prévu pour 2019 contre 1,9%. C'était l'an dernier. Bonsoir Marie Viano.
Bonsoir.
La croissance a objectivement fortement ralenti dans cette zone euro et c'est bien l'Allemagne qui tire les chiffres vers le bas.
Oui, l'Allemagne c'est 28% du produit intérieur brut total de la zone euro. Quand la croissance y marque le pas, logiquement cela a un impact beaucoup plus fort sur toute la zone que quand c'est la Grèce qui pèse à peine 2% du total. Alors cela fait plusieurs mois que la croissance allemande stagne. Possible que le pays se retrouve même en récession cette année. Pourquoi ce retournement alors que tout allait bien depuis 9 ans ? Eh bien, cela part du secteur industriel, si florissant normalement. Au troisième trimestre, la production industrielle a chuté, surtout l'industrie manufacturière. Superpuissance exportatrice, l'Allemagne subit de plein fouet les incertitudes sur le commerce international et son secteur automobile ne se remet pas du scandale des moteurs diesel. Du coup, les plans de licenciement dans l'industrie se multiplient. Mais ces raisons économiques n'expliquent pas tout. L'Allemagne est aussi victime de sa fameuse rigueur. En théorie, quand ça va moins bien dans l'économie, l'État est censé donner un coup de pouce en augmentant ses dépenses pour stimuler la demande et l'investissement, mais pas en Allemagne où la doctrine reste pas d'endettement alors même que s'endetter en ce moment ne coûte rien. D'où l'exaspération qui monte chez les autres membres de la zone euro, France en tête. Le ministre français Bruno Le Maire exhorte l'Allemagne à investir depuis plusieurs mois. Christine Lagarde l'a dit aussi la veille de son entrée en fonction sanctions à la Banque Centrale Européenne. Les propos d'Emmanuel Macron, dont on a parlé juste à l'instant, vont encore plus loin. En affirmant que la règle des 3% de déficit sur PIB était d'un autre siècle, le président français ouvre une brèche, mais dans le discours seulement, car pour changer cette règle, il faut un nouveau traité.
Merci beaucoup Marie Viennot. On s'y attendait, c'est désormais officiel. La CGT Cheminots appelle à son tour à une grève reconductible partout en France à partir du jeudi 5 décembre pour protester contre la réforme des retraites. C'est une première. Un juge des référés a rejeté aujourd'hui la demande de suspension de deux arrêtés anti-pesticides pris par les maires de Gennevilliers et de Sceaux dans les Hauts-de-Seine, refusant donc de faire droit à la préfecture qui, comme partout ailleurs en France, estime qu'une telle interdiction n'est pas de la compétence d'un maire. Cette décision, cependant, pour l'instant, ne porte pas sur le fond, c'est un jugement en référé, mais qui est porté par un certain nombre de considérations intéressantes pour les opposants aux pesticides. Bonsoir Florence Turm.
Bonsoir.
Cette décision prend le contre-pied de celle qui avait été rendue à Rennes dans l'affaire opposant l'État à la commune de Langouette.
Oui, au départ, même cas de figure, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal des référés de suspendre les arrêtés municipaux pris par les maires de Sceaux et Gennevilliers. Nous ne sommes plus cette fois-ci en milieu rural, mais en milieu urbain, et les deux élus en question ont interdit l'usage des pesticides dans des espaces fréquentés par le public, qui plus est un public vulnérable, crèches, écoles, lycées, établissements de soins et d'accueil des personnes âgées. Mais là où les précédents jugements avaient considéré que le maire était sorti de son champ de compétences, la juge des référés de Cergy-Pontoise estime qu'il était dans son bon droit compte tenu du danger auquel les populations étaient exposées. Corinne Lepage, l'avocate des deux communes.
Le juge des référés a refusé donc de faire droit à la demande du préfet de suspendre l'arrêté des maires de Gennevilliers et de Sceaux en considérant d'une part qu'on était dans un cas de carence de la police spéciale qui donne compétence à l'État et que donc les maires pouvaient agir. Et deuxièmement, et ça c'est nouveau, qu'on était donc dans un cas classique de police générale et que compte tenu de la dangerosité des produits, les maires étaient tout à fait dans leur bon droit de protéger la santé des habitants.
Une première victoire judiciaire pour les élus qui ont emboîté le pas au maire de Langouette. Plus d'une centaine de communes ont pris des arrêtés similaires et des dizaines de procédures de ce type sont en cours à travers la France. Autant de décisions à surveiller désormais avant de parler de jurisprudence. Le tribunal administratif de Cergy doit maintenant se prononcer sur le fond dans le même dossier.
Merci beaucoup Florence Turm. En politique, la droite sénatoriale a présenté ce matin une proposition de loi visant à interdire les candidatures communautaristes aux élections en France, ainsi que le financement public des partis communautaires. Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains, estime en effet que le pouvoir municipal peut être menacé par l'islam politique et notamment par l'Union des démocrates musulmans français qui compte présenter une cinquantaine de listes aux municipales du mois de mars prochain. Mais y a-t-il vraiment une menace liée à l'existence de listes communautaires dans la vie politique française? Écoutez la réponse de Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'IFOP.
La sociologie électorale en France et à l'étranger montre depuis très longtemps qu'une des variables lourdes qui explique le mieux le vote est la variable de l'appartenance religieuse. Dans un pays comme la France, un bon marqueur ou un bon ressort du vote à droite était l'appartenance et la fréquence de pratique de la religion catholique. C'est encore vrai aujourd'hui. Les catholiques, pour la dernière élection présidentielle, ont voté à plus de 40% au premier tour pour François Fillon, qui n'a fait que 20% dans l'ensemble de la population. Idem pour la population qui se déclare de confession musulmane, elle penche très clairement à gauche et elle avait voté massivement à plus de 40% pour François Hollande en 2012 au premier tour et en 2017 c'est Jean-Luc Mélenchon qui a obtenu les faveurs de cet électorat. Donc il y a des électorats qui se définissent par leur appartenance religieuse et qui ont des tropismes idéologiques pour la gauche ou pour la droite. Ça a toujours existé, on le retrouve dans d'autres pays. Maintenant, on n'a pas aujourd'hui de traces d'un vote religieux qui se porterait massivement et de manière homogène vers des candidats qui se revendiqueraient expressément de cette confession. Donc c'est là où il y a un petit distinguo à faire, c'est-à-dire que appartenir à une religion historiquement incline plutôt à voter pour des partis de gauche ou pour des partis de droite, mais à date, il n'y a pas de vote communautaire en ce sens que les catholiques voteraient massivement pour un candidat qui se revendique du catholicisme et les musulmans pour quelqu'un qui se revendiquerait de l'islam.
Jérôme Fourquet au micro de Pierre Neveu. À Melun, en Seine-et-Marne, une centaine de migrants accueillis depuis hier dans les locaux de l'ancien hôpital Marc Jacquet. évoquées. Ils ont quitté le camp de fortune de la Porte de la Chapelle à Paris après expulsion sur réquisition de la préfecture de police de Paris. C'est la Croix-Rouge qui les a pris en charge. Samuel Monod pour France Culture a pu rencontrer Kadil, un migrant afghan.
Âgé de 32 ans, Kadil est en Europe depuis 5 ans, en France depuis 2 mois, après avoir fui les multiples conflits en Afghanistan. Il a atterri Porte de la Chapelle dans le camp de réfugiés, l'enfer absolu selon lui, et plutôt content d'avoir été évacué vers Melun.
Les migrants Porte de la Chapelle sont très gentils, mais l'endroit est devenu très sale à cause de nous. Il fallait partir. Cet endroit est mieux que Porte de la Chapelle, même si les gens qui nous aidaient là-bas étaient très aimables.
Pris en charge par la Croix-Rouge dans cet ancien hôpital, tous les réfugiés sont très bien traités selon lui. Ils considèrent même cet endroit comme leur nouvelle maison.
Je suis très heureux ici. Nous avons un super endroit pour vivre. Hier, j'ai parlé avec les personnes de la Croix-Rouge. Je leur ai dit que j'allais faire le ménage parce que je vis ici, parce que c'est ma maison. Tout le monde veut que sa maison soit propre. Nous en avons besoin.
Kadil n'a pas de femme ni d'enfants, alors il apporte sa contribution pour aider les familles. Il apporte les repas, change parfois les couches des bébés, prend soin des personnes âgées. Mais pour mieux s'intégrer, Kadil espère aussi briser la barrière de la langue avec l'aide des bénévoles de la Croix-Rouge.
Je veux apprendre le français et m'imprégner de la culture française. C'est ce que je fais ici avec les gens qui parlent français.
Mais ce nouvel hébergement est temporaire. La préfecture de Seine-et-Marne a indiqué qu'elle allait étudier les situations administrative rapidement pour permettre à ces 102 migrants d'avoir un logement pérenne.
Reportage de Samuel Monod, 18h16 sur France Culture. La suite du journal avec l'enquête du service investigation de Radio France. Avec vous ce soir, Marjolaine Corr, bonsoir.
Bonsoir.
Il y a un peu plus de 6 mois, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris marquait les esprits et vous avez enquêté, Marjolaine, sur la question du plomb disséminé à l'occasion de cet incendie dans Paris.
Oui, lorsque la cathédrale Notre-Dame prend feu, une partie des 400 tonnes de plomb de la toiture se répand dans les rues de Paris. On apprendra en juillet que sur le parvis, le taux de poussière de plomb dépasse les 500 000 microgrammes par mètre carré, alors que ce taux est habituellement bien en dessous de 5 000. Et on a toutes les peines du monde à se débarrasser de ce plomb, explique Ariel Veil, le maire du 4e arrondissement.
Vous avez constaté que le parvis n'est toujours pas rouvert, en tout cas la partie qui doit rouvrir au public n'est toujours pas rouverte parce que il reste des zones où ça a été très très compliqué. Il y a eu un temps de test, il a fallu tester des techniques, des méthodologies comme on dit, de déplombage différentes et elles ont permis d'identifier certaines méthodologies qui marchent mais dont le résultat aujourd'hui, comme on part de seuils très très élevés, sont encore trop hauts pour rouvrir.
Et malgré ça, le lendemain du sinistre, le principe de précaution n'a pas été appliqué. Des écoles rouvre et le travail reprend à la préfecture de police. L'un des agents nous a raconté son arrivée. Il travaille dans le bâtiment en face de Notre-Dame. On a fait lire son témoignage.
Le lendemain de l'incendie, on nous a laissé aller travailler sans nous prévenir de rien. Pourtant, à l'extérieur, l'odeur nous prenait encore à la gorge. On avait même un goût de fer dans la bouche. 15 jours après l'incendie, nous avons vu débarquer dans la cour des ouvriers en combinaison intégrale. Ils ont entièrement nettoyé l'extérieur du bâtiment, mais en soulevant des poussières, ils ont provoqué des toux chez tous les agents. On nous a finalement distribué des lingettes pour nettoyer nos bureaux 3 semaines après l'incendie.
Voilà pour la préfecture, mais du côté des écoles, il a fallu attendre l'été pour qu'elles bénéficient d'un nettoyage complet.
On a donc apparemment, Marjolaine, sous-estimé le problème, mais pour autant, est-ce que des riverains ont été contaminés ?
Alors c'est tout le paradoxe, hein, puisqu'a priori, non. L'Agence régionale de santé a recensé les taux de plombémie, c'est le mot employé, qu'on trouvait chez les enfants des arrondissements alentours. Ce taux ne devrait pas dépasser le seuil d'alerte, fixé à 50 microgrammes par litre de sang, à partir duquel il y a un risque de saturnisme. Or, selon le toxicologue du Centre Antipoison de Paris, Jérôme Langrand, les chiffres découverts sont conformes à cette norme.
Autour de Notre-Dame, on trouve grossièrement 90% d'enfants en dessous de 25, à peu près 10% qui dépassent 25 et puis 1 à 2% qui dépassent 50. Ce qui est en fait ce qu'on avait déjà dans l'étude en population générale Saturninf fin des années 2000. Évidemment, ça veut dire que si jamais il y a un effet de Notre-Dame sur les plombémies, on l'observe pas. Peut-être qu'il est trop fin pour être observé, mais en tout cas, il est dans tous les cas, s'il existe, il est discret.
Donc Marjolaine, si on résume, beaucoup de plomb à l'extérieur et peu de plomb dans les organismes, c'est ça ?
Oui, c'est le premier enseignement, mais il y en a un deuxième. On s'est aussi aperçu à cette occasion qu'il existait un seuil maximal de plomb toléré pour l'intérieur des bâtiments, mais aucune norme n'existe pour l'extérieur. Sophie Hérault est chercheuse au laboratoire de sciences du climat, spécialiste du plomb.
Une des bonnes choses de ce triste événement, c'est de réfléchir à une valeur seuil de concentration de ce plomb dans les poussières extérieures. C'est une question qu'on n'a pas bien traitée en France jusqu'ici, parce que la source principale de contamination, et notamment pour les enfants, c'est la poussière intérieure avec des logements vétustes où on a des peintures au plomb qui sont dégradées. Et ça, c'est vrai que ça a un petit peu mis l'éteint noir sur la question de la contamination à l'extérieur.
Et l'Agence nationale de sécurité sanitaire a été saisie pour fixer enfin un seuil pour la voirie.
Merci Marjolaine Corr. Votre enquête est disponible en longueur sur notre site internet franceculture.fr. La mort de Lucette Destouches la nuit dernière à 107 ans. Ancienne danseuse, elle était la veuve de Louis-Ferdinand Céline, dont elle avait pris le nom de naissance Destouches. Un temps encore perturbé et instable demain. Pluie, nuages et vents avec de la neige en altitude. C'est l'effet d'une nouvelle perturbation qui arrive lentement et qui entraînera une baisse des températures de 1 à 5 degrés en Champagne Ardennes et en Lorraine demain matin, de 3 à 6 degrés sur le sud. Dans l'après-midi, pas plus de 7 à 9 degrés au nord, de 10 à 14 sur le sud.